L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est écologie. Dans cette première partie, le LEM vous propose de redécouvrir la maison de la rivière. Bon, c'est à Cizun, c'est un lieu d'exposition et c'est aussi un lieu d'éducation. Et comme Radio Évasion, c'est une association avec des adhérents qui font aussi vivre la structure, en plus des salariés. Cette année, parmi les adhérents, il y a des chercheurs et chercheuses qui se proposent de partager leur savoir auprès de tout public par des conférences assez courtes et dynamiques, avec un artiste pour pause musicale et une exposition à la clé. Il y aura 4 conférences autour du changement climatique dans 4 communes différentes. Avec nous pour en parler aujourd'hui, il y a Pierre Tandéo, enseignant-chercheur en mathématiques, notamment à l'IMT Atlantique, et qui travaille entre autres sur la modélisation du changement climatique et sur l'océan, et il habite à Quimère. Il y a aussi Marion de Villiers, qui est climatologue, elle vit à Loperec et elle travaille pour l'Institut de météo danoise. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez voulu proposer ces conférences sur le changement climatique,
Pierre ? Alors, en fait, on est arrivé à la Maison de la Rivière il y a... quelques mois. Moi, ça fait un an et demi à peu près. Marion, ça fait quoi, un an ?
Début de l'été, oui.
Début de l'été. Et donc, on est arrivé un petit peu par hasard à la Maison de la Rivière. On s'intéresse au changement climatique et aux rivières en général. Et donc, la Maison de la Rivière nous a dit, si vous rentrez dans l'association, vous avez un petit peu carte blanche pour faire un peu ce que vous voulez. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas proposer des choses qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien autour du changement climatique. Et donc, on a proposé ces 4 conférences autour du changement climatique et notamment de l'impact que ça va avoir dans le Finistère. Donc, on voulait vraiment insister sur l'impact local de ce changement climatique. Et donc, on nous a laissé vraiment faire et monter ça par nous-mêmes. On a proposé de faire des conférences qui seraient dans 4 communes, donc dans le centre Finistère. Alors, pourquoi le centre Finistère et pourquoi les Monts d'Arrée ? C'est parce que c'est un petit peu une zone sanctuaire, je dirais. Là où il y a beaucoup de zones humides, c'est le départ de beaucoup de rivières qui sont vraiment importantes pour le Finistère. Et aussi pour toucher la population qui peut pas forcément aller sur Brest ou sur Quimper, là où il y a beaucoup de conférences sur ces thèmes-là. Et on voulait vraiment toucher les gens au cœur du parc d'Armorique.
Donc voilà, les 4... Oui, pardon, Marion.
On voulait un endroit de discussion avec les personnes parce que le sujet est assez compliqué. Et donc on voulait pouvoir leur donner la possibilité de poser des questions et qu'on puisse y répondre.
Très bien. Et donc, vous avez choisi, alors je dis les 4 communes, il y aura donc Cizun pour commencer. Ensuite, ça sera à Timénézaré, donc à Brasparts. Le 8 juillet, ce sera à Plébin et on terminera par Landerneau. Donc voilà pour les 4 communes. Et puis alors, il y a 4... C'est le changement climatique, c'est le thème principal, mais ensuite, il y a des sous-thèmes. Et puis, vous y allez tout à fait progressivement. Hein, vous commencez par définir le climat, c'est ça ? Alors là, Marion de Villiers, vous serez dans cette conférence sur le... Qu'est-ce que le climat ?
Voilà, en fait, on va faire venir Juliette Mignot, qui est une chercheuse IRD, qui travaille au L'Océan à Paris.
Qu'est-ce que ça veut dire, IRD ?
IRD, c'est l'Institut de Recherche et Développement.
Merci.
Il y a 2 instituts de recherche très importants en France, le CNRS et l'IRD, je dirais surtout pour le climat. Et donc, Juliette Mignot va venir avec moi présenter donc, cette première conférence pour en fait expliquer qu'est-ce que c'est que le système climatique, l'océan, l'atmosphère, pouvoir répondre vraiment aux questions des gens. On va essayer d'être le plus simple possible et... de pouvoir répondre au maximum de questions.
Ouais, pas évident, parce qu'en fait, le climat, on le sait maintenant, hein, c'est quand même un phénomène complexe. Enfin, c'est quelque chose de complexe.
C'est complexe parce qu'il y a l'océan, l'atmosphère, la cryosphère, la glace, la végétation. Il y a beaucoup de choses. Il y a des compétences qu'il faut avoir en biologie, en chimie, en physique, en mathématiques. C'est beaucoup de choses imbriquées les unes dans les autres. Donc, ça demande quand même vraiment à ce que des gens expliquent ça le mieux possible.
Et la complémentarité entre vous deux, les deux intervenantes, c'est quoi en gros
Je dirais déjà qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, je travaille sur le climat que depuis quelques années, alors qu'elle a fait sa thèse dessus, etc. Et Elle est aussi peut-être plus, elle a beaucoup de compétences en océanographie, ce qui est une part très importante pour, notamment pour le changement climatique. Donc, je suis très contente qu'elle puisse venir.
Et vous, pourquoi, enfin, vous dites que ça fait pas longtemps que vous travaillez sur le climat, parce que c'est quoi votre matière de base ?
Oh, moi, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais ma thèse, c'était sur la dynamique des particules, donc c'était plutôt qualité de l'air.
Vous êtes physicienne plutôt, alors c'est ça ?
Mathématicienne de formation, et après, j'ai fait une thèse en qualité de l'air.
Ah, c'est là qu'on voit que c'est intéressant aussi, ce climat, c'est que ça fait vraiment travailler, et depuis longtemps, des disciplines très différentes, c'est ça aussi ?
Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est la passerelle plutôt numérique qui m'a permis d'arriver vers le climat, parce qu'il faut vraiment des gros modèles de calcul, et donc des compétences en numérique, pour pouvoir travailler avec et les améliorer.
Et vous travaillez en plus pour l'Institut de météo danoise. Alors c'est intéressant aussi peut-être de repréciser pour les auditrices et auditeurs la différence entre la météo et le climat.
Tout à fait. Alors pour moi, la première chose à laquelle je penserais, c'est l'échelle de temps. Donc la météo, c'est 3 jours, avec peut-être en allant jusqu'à 10 jours, avec, en augmentant les incertitudes. Le climat, on parle de quelque chose qui est de plusieurs mois à des décennies, des choses sur beaucoup plus long terme.
Des millénaires même,
oui. On parle de paléoclimat, oui.
Oui, c'est ça, parce qu'un climat, ça met combien de temps à changer ? Enfin, je ne sais pas si vous savez. Si...
Il y a différentes échelles de temps, mais il y a une variabilité naturelle du climat. Alors après, on va rentrer dans des choses assez complexes, mais oui, il y a des variations qui peuvent aller... on a des variations saisonnières, des variations décennales, des variations interdécennales, des variations décennales. Ça va assez loin. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, la MOC.
Alors, la MOC, c'est le courant, c'est le fameux courant qu'on confond avec le Gulf Stream, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Qui est donc aurait une variabilité très, très longue, a priori.
Et la MOC, c'est un courant aérien ou marin, en fait ?
Marin.
Voilà, c'est
voilà,
ça,
pour c'est préciser. C'est la circulation méridienne de retournement atlantique.
Et on lui doit notre climat breton, notamment.
Voilà, on lui doit notre climat doux, breton, tempéré, car il nous amène les eaux chaudes de l'équateur.
Ouais, et s'il n'y avait pas la MOC, le climat de Bretagne, ça serait quoi en gros ?
En ce moment, il y a des signes qui montrent un possible ralentissement de la MOC et les projections climatiques nous montrent un ralentissement de la MOC. Et si cette MOC serait amenée à décliner, on aurait effectivement des hivers plus rigoureux en Europe, des sécheresses plus fortes en Afrique de l'Ouest. Et on a aussi une ventilation qui se réduit dans l'océan et donc moins de nutriments, ce qui peut impacter toute la chaîne alimentaire.
On en reparlera après sur la question des liens entre le climat et la biodiversité. Juste pour le climat, on dit le climat, mais en fait, ça serait plus juste de dire les climats, parce que qu'est-ce qui définit la zone géographique où s'arrête un climat, en fait parce qu'on ne peut pas parler de climat mondial, puisqu'on a tous des climats différents, non ?
Eh ben, on fait, notamment dans le rapport du GIEC, on fait toutes sortes de diagnostics, on en fait des mondiaux et on en fait des régionaux. Mais effectivement, il y a différentes tendances selon les régions et différentes choses à regarder. Souvent, d'ailleurs, les tendances sont séparées selon les régions. Par exemple, pluvieuses vont être plus pluvieuses à l'avenir, les régions plus sèches vont être plus sèches. Ça peut être séparé de cette façon-là, mais effectivement, c'est très disparate selon les régions.
Et puis nous, on aime bien en Bretagne parler de microclimat. Qu'est-ce que vous en pensez de cette appellation microclimat, par exemple
J'ai habité à Lorient et je peux confirmer que le microclimat, ça existe.
Et alors, il est à quoi, à l'échelle de quoi ? D'un demi-département
Je ne saurais pas dire, là.
Entre deux fleuves, peut-être, aussi, non ?
Possiblement, oui. Je ne saurais pas vraiment dire. Bon. Comment on peut découper un microclimat, Pierre ?
Ouais, il y a l'impact de la marée aussi qui joue certainement ici. Donc... Ouais, je sais pas. Non, je peux pas vous répondre là-dessus, je pense.
D'accord. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a le droit de pas savoir. Au contraire, ça donne confiance quand on sait reconnaître qu'on ne sait pas. Alors, donc, le climat. Bon, on a défini en gros ce que c'était. Et alors, ça, c'est le thème de la première conférence qui aura lieu le 28 janvier. Donc, bientôt, c'est à la salle Saint-Ildut à Cizun. Qu'est-ce qu'il y aura donc concert? Ça sera Soïc Sibéril, c'est ça? Donc,
oui.
Guitariste, hein, on peut dire ça comme ça. Il chantera aussi, non?
Il chante, il joue de la guitare, voilà, c'est plutôt musique celtique, mais il a sorti un dernier CD là, qu'il va présenter. Et il y aura aussi des expositions de photos. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Rémi Masson qui fait de la photographie subaquatique. Donc ça c'est sous l'eau.
Sous la mer ou sous le...
Non, plutôt dans les rivières.
Oui.
Et ensuite on a Paul Troel qui fait partie de l'association de la Maison de la Rivière, qui lui fait plutôt des dessins assistés par ordinateur de la faune et de la flore autour des rivières.
Alors, vous prévoyez ensuite une conférence qui a lieu le 29 avril à Brasparts sur les modèles et les projections climatiques, je suppose, bien sûr. Alors là, Pierre Tonnéo, c'est vous, avec quelqu'un d'autre peut-être aussi ?
Oui, alors normalement, c'est Anne-Marie Tréguier qui est la directrice de LISBLUE, qui est un institut sur Brest. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de LISBLUE. Et donc là, on aimerait parler, voilà, rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà, dans la première conférence, c'est plutôt parler du climat en général. Et là, on parlerait des projections climatiques. Donc projection, ça veut dire qu'on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et notamment dans le Finistère. On voulait vraiment que ce soit focalisé sur nous. Alors, dans les projections climatiques, bah, ça fait intervenir des modèles climatiques dont parlait Marion. Les modèles climatiques, en fait, c'est un projet qui a été lancé depuis plusieurs décennies, qu'on appelle le CEMIP. C'est un projet sur les comparaisons de modèles climatiques. En gros, c'est des modèles météo, océanaux, qui sont couplés et on les fait tourner très très longtemps. C'est-à-dire, au lieu de faire tourner un modèle météo sur 10 jours, pour avoir la prévision à 10 jours, on les fait tourner jusqu'en 2100 et on regarde ce qui se passe.
Mais avec beaucoup de paramètres, j'imagine. Enfin, c'est quoi, vous les avez récoltés dans le passé, les paramètres, et puis vous les appliquez sur... Vous essayez de les appliquer sur le futur, c'est ça ?
Oui, donc il y a une partie, effectivement, de réglage des paramètres sur la partie historique. Et puis ensuite, on modifie un petit peu les paramètres pour faire tourner les modèles. Et on fait ce qu'on appelle des ensembles, c'est-à-dire qu'on fait tourner plusieurs modèles avec une légère modification des paramètres ou de la condition initiale. Ce qui fait qu'au final, on a une collection, un ensemble de modèles et on va calculer, en fait, pour parler mathématiquement, on va calculer une moyenne et un écart type ou une variance avec ces différents ensembles, et ce qui nous permet d'avoir une projection en moyenne et puis avoir aussi une marge d'erreur, par exemple, pour dire, je sais pas, l'augmentation de la température en 2100, ça peut être plus de 2 degrés avec une marge d'erreur de 1 degré, par exemple.
Et en gros, les paramètres que vous utilisez, c'est quoi ?
Peut-être Marion est plus spécialisée là-dedans.
Alors, à cette échelle-là de temps, le paramètre le plus important, ça va être le forçage externe, c'est-à-dire qu'est-ce que vont choisir les politiques et qu'est-ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre. Et ça, donc, c'est séparé en 4 scénarios en général par ces études-là, avec des scénarios le plus catastrophique où
on
appelle business as usual, voilà, c'est ça, on ne fait rien, avec des scénarios plus positifs. Et donc, ça nous donne voilà, une série de valeurs et un ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pourra avoir comme projection.
Ouais, donc vous projetez quelles sont les actions, les émissions en fait de gaz à effet de serre.
Voilà.
Mais sur quoi ? Sur les températures, mais quoi, la circulation des, enfin le.
Alors les gaz à effet de serre, c'est donc ça transforme la composition de l'atmosphère et c'est ça qu'on va mettre dans notre modèle. Après le modèle lui-même, c'est quoi en faire ? Il y a donc de la physique derrière, de la bio, de la chimie qui du coup, déduire de cette augmentation de température tout ce qui va se passer dans l'atmosphère, dans l'océan, dans la circulation, etc.
Et alors, donc, Pierre, sur la projection pour pour le massif armoricain, plus exactement, quelles sont les différentes projections de changement climatique ?
On peut dire qu'on sera relativement épargné en termes de température sur la façade atlantique par rapport à l'est de la France, par exemple. Donc,
on va garder des températures relativement douces.
Oui, voilà, il y aura moins d'augmentation de température par rapport à l'est, parce qu'on a l'océan qui est là pour faire tampon. Et par contre, sur les précipitations, c'est nous sur la façade atlantique où on va peut-être être plus touchés que sur l'est de la France. À savoir notamment ce qui est prévu surtout dans le scénario catastrophe, donc c'est le scénario business as usual, ce qui est prévu pour 2100, c'est plus de précipitations l'hiver, mais beaucoup moins l'été.
Alternance de saisons humides et saisons sèches, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, ça peut avoir un impact très fort sur nos rivières et sur l'eau douce, en fait, qui va découler. Premièrement, donc, si on a plus de précipitations l'hiver, en fait, les berges des rivières risquent d'être grignotées au fur et à mesure. Donc, on risque d'avoir ce phénomène-là. Donc il va falloir faire un travail sur les rivières pour essayer de les garder, pour garder bien le lit de la rivière. Et ensuite, l'été, bah, si on se retrouve avec une rivière très grande et avec moins d'eau parce que moins de précipitations, en fait, on va avoir une évaporation qui va être plus forte et donc qui va accentuer ce problème de manque d'eau. Donc dans le futur, il faut s'attendre, dans le Finistère, même si on pense qu'on a toujours de la ressource en eau, il faut s'attendre quand même à avoir des problèmes de ce côté-là.
Ah ouais, de sécheresse, quoi.
Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein, en 76, il y a eu la sécheresse et le lac du Drennec a été créé pour faire face à ces futures sécheresses. Donc voilà, donc on voulait un peu sensibiliser les gens là-dessus et dire que garder les rivières, c'est hyper important.
Parce ça sera, qu'on a, de on toute a façon, pas de... ça sera le thème aussi de la quatrième conférence, hein,
oui, voilà.
Je suppose. L'eau douce en Finistère.
L'eau douce dans le Finistère, c'est vraiment, on termine
en
là-dessus.
En lien avec le climat, quoi. Ouais. Ouais. Et juste pour en revenir aux projections climatiques, donc vous intéressez, vous n'êtes pas trop attaché à justement si la MOC s'arrête, enfin si le fameux courant océanique s'arrêtait. Parce est-ce qu'on pourrait devenir comme, je ne sais pas, le Canada en Bretagne, avoir très très froid l'hiver Ça ne vous paraît pas si probable que ça?
Tu veux parler, Marion? Ouais, vas-y.
Mmh, en fait, les modèles prévoient un déclin, mais pas un arrêt total comme dans Le Jour d'après.
Ah ouais, oui, c'est ça. Oui, non, bien sûr, ça c'est un film.
Et puis en fait, le réchauffement climatique en fait prendrait le dessus sur ce refroidissement dû à la MOC qui diminue. Donc quand même, globalement, c'est le réchauffement prendrait le dessus par rapport au refroidissement. C'est ça qu'il faut retenir.
Alors, donc, cette conférence sur les changements climatiques, surtout dans le massif armoricain, ça sera donc le 29 avril et ce sera à Timenezaré, à Brasparts.
C'est ça.
La troisième conférence, le 8 juillet, à Plébin. Alors, biodiversité, les liens entre la biodiversité et le changement climatique. Quels sont-ils, ces liens?
Alors,
non, Pierre.
Le GIEC, donc qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc ils sortent un rapport, voilà, tout. Ils viennent de sortir le dernier rapport là, il y a quelques mois, et en fait ils font des liens avec un autre rapport qui est fait côté biodiversité. On appelle ça le rapport de l'IPBES. Alors, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.
Merci.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, ils ont créé des passerelles en fait, entre ces deux rapports, parce que tout est lié, évidemment. Et donc, on voulait expliquer ça, en fait, ces rapports qui existent entre le changement climatique et le changement de biodiversité. Et on voulait surtout insister sur les rivières, parce que c'est ça qu'on connaît.
Et ah oui, c'est la maison de la rivière.
Monsieur. C'est la maison de la rivière, notamment sur les salmonidés, donc le saumon et la truite, qui sont vraiment des espèces emblématiques qui se plaisent beaucoup dans le massif armoricain parce qu'on a des étés relativement pluvieux actuellement et comment dire, des températures fraîches en été, et c'est ce que aiment les saumons et les truites.
Et le présentateur, ça sera...
Alors le présentateur, il y a quelqu'un de l'association. Parce qu'à chaque fois, on
essaie de la maison de la rivière.
La maison de la rivière.
C'est Jacques Ledoiré.
C'est Jacques, oui. Et ouais. Puis l'autre personne, on n'est pas encore super sûr, donc peut-être on. Ouais.
Mais il y aura un chercheur, c'est ça en fait.
Oui, à chaque fois, il y a une personne de la maison de la rivière et un invité local qui fait de la recherche, alors local ou pas, parce que.
Bah toi, tu présenteras la 2 déjà
ouais.
aussi. Et oui, peut-être Anne-Marie Tréguier, ça sur la 2, donc ça fait deux locaux.
Ça fait deux locaux, oui.
Ouais.
Et donc, ce que je voulais dire, ouais, sur le lien entre le changement climatique et la biodiversité, donc c'est surtout pour le saumon et les truites, c'est que si effectivement on voit des étés plus chauds et avec moins d'eau, donc ça va être très très problématique sur nos populations de salmonidés. Il faut savoir que une truite, par exemple, si l'eau est entre 18 et 21 degrés, elle est inactive. Et si l'eau est supérieure à 21 degrés, ça devient carrément létal pour le poisson.
Et elle meurt, quoi.
Et elle meurt. Ouais. Et donc, c'est quand même inquiétant, parce que ces espèces animales qui sont... C'est comme si, je ne sais pas, le chevreuil ou le lapin disparaissaient sur Terre, dans le Finistère. C'est un peu l'équivalent, en fait, de ce qu'on pourrait voir disparaître en rivière ici. Donc, c'est quand même des espèces auxquelles il faut faire vraiment attention.
Et ces liens, enfin, c'est le changement climatique qui a un impact sur la biodiversité. Mais est-ce que l'inverse est vrai ? Alors, vous n'êtes pas biologiste ni l'un ni l'autre, mais je crois que des disparitions d'espèces peuvent avoir un impact sur le climat. Non ?
D'une colle ? Non, je pense il y a notamment des... Enfin, ça me fait penser à un exemple dans le parc de Yellowstone aux États-Unis où ils ont... ils ont éradiqué à un moment les loups et donc ils se sont aperçus qu'en faisant ça, en fait, les chevreuils ou les cervidés, en gros, revenaient autour des rivières parce qu'ils n'avaient plus de prédateurs. Et donc, ils mangeaient en fait tous les arbres autour des rivières. Et donc, il n'y avait plus d'arbres pour supporter les berges des rivières. En fait, les rivières commençaient à grossir de manière anormale parce que voilà, il y avait plus de végétation pour bloquer un peu l'évolution du lit de la rivière. Et donc, ils se sont aperçus que c'était vraiment une erreur de supprimer une espèce. Et donc, ils ont réintroduit des loups. Et maintenant, les cervidés, en fait, font attention quand ils vont à côté de la rivière, parce que tout le monde se retrouve là, à côté de la rivière. C'est là où c'est vraiment un corridor important, naturel. Et donc, le fait de remettre des loups a permis la revégétation autour des rivières et, en fait, au bon fonctionnement naturel de ces rivières. Donc, effectivement, il y a un lien quand même hyper fort entre les deux. C'est l'exemple qui me vient là, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres.
Moi, je pensais surtout aux arbres aussi, à l'importance d'avoir beaucoup, beaucoup d'arbres sur cette planète pour justement capter le CO2 et pouvoir justement réduire ces gaz à effet de serre.
Et du plankton dans l'océan, je crois.
Oui.
Alors, c'est plutôt les algues, je crois, qui jouent un rôle.
C'est le phytoplancton, c'est ça. Donc, ça, c'est les liens entre biodiversité et changement climatique. Ça sera le 8 juillet à Plébin. La quatrième conférence, bon, on l'a déjà un petit peu mentionné, puisque quand même, c'est la Maison de la Rivière qui organise ces conférences, et c'est l'eau douce en Finistère, sur le risque de rivières à sec. Donc ça, c'est la dernière conférence qui aura lieu en automne, un moment où les rivières ne seront peut-être pas sèches. Mais
ouais.
Donc là, ça sera vous, Marion ? Non,
non, c'est pas moi. On va prendre des personnes qui, justement, s'occupent de ces réseaux d'eau douce dans le Finistère. Alors,
il y a l'agence de l'eau, et puis il y a une personne aussi à la Maison de la Rivière qui connaît bien ça, qui travaille, c'est Renaud Layadi, qui travaille à la région sur ces aspects-là.
Alors, on commencera à en parler déjà dès les conférences précédentes, parce que le Finistère a la particularité d'avoir peu de nappes phréatiques. Et donc, c'est quelque chose qui sera dit et répété à cette conférence.
Donc pas de réserve d'eau souterraine, quoi, en gros. Enfin, presque pas, quoi.
Presque pas. C'est pour ça qu'on dépend beaucoup des rivières. On a été obligé donc de faire le lac du Drenec, qui avant, je crois, était utilisé.
Qui s'appelle en fait Réservoir Saint-Michel, d'ailleurs.
Excusez-moi.
Tout le monde l'appelle lac du Drenec, mais c'est vrai que son vrai nom, c'est Réservoir Saint-Michel.
C'est vrai. Et maintenant, on l'utilise très régulièrement, quoi.
Donc, pour abreuver les populations de Brest, quoi. Ouais,
voilà,
c'est ça.
C'est surtout Brest.
Ah ouais.
Donc on a discuté avec pas mal de personnes. Apparemment, il y a un problème aussi au niveau du réseau. Les tuyaux, il y a beaucoup de fuites. Il faudrait renouveler tout ça. Il y a beaucoup de questions donc politiques autour de l'eau douce. C'est un sujet assez sérieux. Donc on s'est mis à Landerneau parce que c'est une bonne ville, je pense. C'est un bon symbole.
Ah oui.
Ouais.
Pourquoi?
Bah parce que je crois que le captage d'eau en fait du lac du Drenec ne se fait pas directement au lac du Drenec. En fait, il rejette de manière continue de l'eau en été, et en fait c'est pompé à Landerneau. Donc c'était un peu pour ça. Landerneau aussi, c'était pour parler aussi de la montée des eaux, du problème de la montée des eaux qui va être
des inondations, enfin des inondations, crues et inondations. Ouais. Ouais.
Ça sera aussi un sujet de la conférence.
Ça sera un sujet. Ouais.
Ouais. Parce qu'on aura des rivières à sec en été et des inondations l'hiver. En gros, c'est ça. Hein,
voilà, c'est ça.
Ouais.
Et une montée des eaux, donc érosion côtière, on va avoir un recul des plages, des choses comme ça.
Ouais, ça c'est le niveau marin en plus, quoi, qui n'arrange pas les choses, quoi.
Ouais. Parce
que, mais en ce qui concerne l'eau douce, c'est ça le risque en fait, c'est des rivières à sec, des poissons qui disparaissent. Enfin, on en a parlé, c'est ça.
Ouais, ou remplacés par d'autres espèces de poissons.
Ah oui, par exemple.
Bah, moi j'en parlais avec les collègues de la Maison de la Rivière. Moi, je suis pas trop spécialiste là-dedans, mais c'est plutôt les peut-être des gardons, des rotangles, des brèmes qui pourraient arriver, en fait, et puis supplanter les salmonidés.
Ouais, nos saumons et nos truites. Ouais.
Voilà, il va y avoir la question de l'adaptation qui sera abordée aussi à chaque conférence. On va proposer des solutions, discuter de qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, des solutions de mitigation, on appelle ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir le processus et s'adapter au mieux ? Donc, pour l'agriculture, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a moins d'eau douce l'été ? Est-ce qu'on va continuer à cultiver du maïs ? Des choses comme ça.
Donc, histoire de ne pas perdre complètement espoir, hein, c'est ça ?
Ouais.
Ok, donc ça, cette conférence sur l'eau douce en Finistère, risque de rivière à sec, ça sera le 28 octobre à Landerneau. Merci. On va inviter les auditrices et auditeurs à réécouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion. Et puis, on reparlera au fil de l'année de ces quatre conférences organisées par la Maison de la Rivière.